Deutsche Welle. Pulsation.
Elle est française, elle est noire et afroféministe. Laurane Safou, alias Mrs. Roots, est l'invitée de Pulsation aujourd'hui pour nous parler de son blog éponyme et de son livre pour enfants qui sort en réédition le 5 septembre. En fin d'émission, nous reviendrons sur l'ouragan Katrina qui avait dévasté il y a 13 ans le sud des États-Unis. Mais tout d'abord, nous nous penchons brièvement sur la signification du mot mousson. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
En cette période de l'année, nombreuses sont les inondations qui frappent certaines régions du monde. C'est le cas particulièrement en Inde, en ce mois d'août, témoin d'une mousson hors norme. La mousson, c'est quoi exactement ? Commençons par le mot. Il provient de l'arabe « mousim », qui signifie « saison » et qui a été utilisé par les marins portugais pour désigner la saison favorable pour naviguer vers l'Inde. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique assez complexe, mais en résumé, on peut dire que des flux de masse d'air se déplacent d'un hémisphère à l'autre en provoquant souvent des vents puissants et des précipitations importantes, particulièrement en Asie du Sud et du Sud-Est. Contrairement à ce que l'on croit, les phénomènes de mousson ne sont pas seulement observables en Asie. En effet, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest est aussi sujette à ce genre de processus lorsque les déplacements d'air deux fois par an mettent en contact la chaleur du Sahara à la fraîcheur de l'océan Atlantique. C'est tout simplement la saison des pluies. La DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. L'afroféminisme est un mouvement principalement en Europe qui évoque et dénonce les discriminations dont les femmes noires font l'objet en raison de leur couleur de peau et de leur genre. Une de ses représentantes est Laurane Safou, écrivaine française noire, née d'une mère martiniquaise et d'un père du Congo-Brazzaville. Après des études de littérature et d'édition, elle crée son blog afroféministe sous le pseudonyme Mrs. Roots. Laurane Safou a déjà deux romans à son actif et son livre pour enfants « Comme un million de papillons noirs » vient d'être réédité par Cambourakis pour une sortie le 5 septembre prochain. Elle est l'invitée de Pulsation aujourd'hui. Laurane Safou, alias Mrs. Roots, dans Pulsation, bonjour.
Bonjour.
On va d'abord commencer pour vous situer un peu par votre parcours. Vos parents sont originaires du Congo et de la Martinique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mon père est donc de Congo à Brazzaville et ma mère est de la Martinique.
Et alors, vous êtes née en France, vous avez grandi en France et qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui ?
Beaucoup de choses. C'est vrai que les activités que je fais aujourd'hui ont commencé en fait avec mon activité de blogueuse. C'est-à-dire que donc en 2013, j'ai ouvert du coup le blog éponyme Mrs. Roots. Je voulais analyser un petit peu mon identité en tant que telle, c'est-à-dire pourquoi on pouvait avoir une identité plurielle puisque je suis autant congolaise que martiniquaise que française.
Oui.
et comment en fait ça s'inscrit finalement dans un contexte français. Et donc au fur et à mesure, mon travail s'est un peu inscrit dans un mouvement qui a connu un nouvel élan qui est donc l'afroféminisme.
Mrs. Roots, blogueuse littéraire et dangereusement afroféministe. C'est ce qu'on peut lire sur votre blog, comme une petite description de votre personne. Blogueuse, on comprend, littéraire aussi. Afroféministe, on peut peut-être préciser qu'est-ce que c'est exactement l'afroféminisme ?
Alors l'afroféminisme, est en fait un mouvement de lutte contre les oppressions que subissent les femmes noires. Donc c'est qui est apparenté notamment au mouvement américain communément appelé Black Feminism. Mmh. Et donc ça implique d'étudier comment un individu par son genre, son groupe ethnique et également sa classe sociale va subir des oppressions spécifiques. Dans le cas des femmes noires, le protocole ethnique qui visait à anticiper pour les femmes noires enceintes le fait d'accoucher par césarienne.
D'accord.
Sur la base d'un diagnostic qui était juste appliqué à la majorité des femmes noires quelles que soient leurs origines, quels que soient les contextes, voilà.
Dites-moi, Laurane Tsafou, est-ce que vous connaissez aussi un afroféminisme qui ne se limite pas à la diaspora, mais qui aussi vit en Afrique ?
Alors en fait, je pense qu'il y a un abus de langage en fait qui est dû justement à la diversité des nombreux mouvements, à savoir que le black féminisme, donc qui s'applique à un contexte américain, n'est pas l'afroféminisme que on retrouve dans un contexte, en tout cas européen surtout. L'afroféminisme se concentre vraiment sur le vécu des afrodescendants, donc des ressortissants du continent ou des descendants même d'immigrés. Dans les pays occidentaux,
mais qui ne vivent plus en Afrique.
C'est clair que c'est quand même des mouvements qui sont en dialogue, qui font aussi front sur la question des différents vécus. Et c'est vrai qu'il y a une vraie diversité. Des mouvements français peuvent être en contact avec des mouvements brésiliens, puisque la question des afrodescendants au Brésil ou à Cuba, etc., ou en République dominicaine aussi, est importante. Voilà, il y a plusieurs ponts, mais je pense que le féminisme africain a ses propres mouvements sur le continent, qui s'applique à un contexte donné sur le continent, donc que ce soit l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone.
Par ailleurs, vous êtes sur le point de publier votre troisième livre, qui est un livre pour enfants. Ce sera le 5 septembre prochain. Il s'intitule « Comme un million de papillons noirs ». J'ai lu quelque part que ce titre, vous avez été inspiré par une expression de Toni Morrison, l'écrivaine africaine-américaine. C'est exact ?
Oui, tout à fait. En fait, donc dans le livre « God Help the Child », dont la traduction française est « Délivrance », Toni Morrison comparait justement l'afro d'une femme noire, de son personnage principal, à un million de papillons noirs. Alors, pour avoir fait des études littéraires, c'est pas souvent qu'on trouve des comparaisons, des comparaisons qui valorisent en fait le cheveu crépus des femmes noires en général. Et j'étais vraiment marquée par cette citation-là. Et en parallèle, donc, mon éditrice avec les éditions Billy Bock, puisque c'était eux qui ont d'abord initié la première édition, donc m'ont proposé de travailler à partir de cette citation, en me disant, voilà, on a ce morceau de phrase comme un million de papillons noirs, est-ce que tu peux nous faire une histoire dessus ?
D'accord.
Et sachant que j'adore le travail de Toni Morrison, c'était un petit peu un cadeau, quoi.
Oui.
Donc j'ai travaillé du coup à partir de cette citation sur l'histoire d'Adé, donc cette petite fille qui, suite à des moqueries à l'école, n'aime pas ses cheveux et va devoir apprendre à les aimer, entourée de sa mère, de ses tantes, de ses amis, en cherchant à chaque fois à trouver des petits papillons noirs qui lui prouverait que sa chevelure est belle.
Je ne doute pas qu'elle y parvienne, la petite Adé. Et vous, vous êtes parvenue à aimer vos cheveux ?
Oui, ça a mis du temps. Il a quand même fallu que je me retrouve à l'étranger, dans un pays nordique où il n'y a pas de salon de coiffure afro.
En Finlande,
voilà,
je crois.
Pour commencer un petit peu à m'occuper de mes cheveux. Et ça a été très salvateur. Et c'était vraiment, je pense qu'il y avait quand même une part assez initiatique, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même un regard différent sur mes cheveux, déjà, dans un premier temps, et qui a aussi nourri ce projet-là. Puisque donc, lorsque la première édition est sortie, donc en octobre 2017, on a eu beaucoup de retours, que ce soit de petites filles, mais aussi de femmes noires, trentenaires ou même plus âgées, qui ont acheté le livre parce qu'elles n'avaient pas connu ça plus jeune. Donc c'est vrai que le livre aussi a pour vocation de faire en sorte que d'autres petites filles noires puissent apprécier leurs cheveux plutôt que moi, qui n'aient pas à attendre leurs 20 ans. Mais il y a aussi beaucoup de petits garçons aussi qui ont aimé le livre et d'autres petites filles qui n'étaient pas nécessairement noires, mais qui ont adoré l'histoire d'Adé pour le message d'estime de soi qu'il y avait derrière. Donc je pense aussi que ce projet a quand même un peu et un moyen aussi de montrer qu'une histoire singulière avec des questions singulières peut toucher tout le monde comme n'importe quelle histoire en fait.
Je vais m'adresser pour finir à Mrs. Roots, Roots qui veut dire évidemment racine en anglais. Quel est le prochain sujet sur lequel vous avez l'intention d'écrire dans votre blog ?
Le prochain sujet est assez particulier, puisque c'est la spiritualité comme arme politique. C'est-à-dire que donc, dans les mouvements féministes déjà à l'international, on a de plus en plus de femmes qui s'interrogent sur des figures symboliques qui ont un peu pallié l'histoire, que ce soit la figure des sorcières en Occident. Comment la féminité et la spiritualité ont souvent servi le patriarcat quand il était question de dire que Ève avait mené à la chute d'Adam ou des choses comme ça. Voilà, il y a tout un bouillonnement autour de ces questions-là. Je me suis un peu intéressée aux figures symboliques qu'on trouve du côté des mythes d'Afrique francophone.
D'accord.
Puisque dans les légendes ou dans un imaginaire collectif de certains pays d'Afrique francophone, on a des figures de déesses ou de femmes noires mythiques qui ont nourri un petit peu des récits en fait autour de ces figures qui sont nées en opposition à l'arrivée des colons, par exemple, durant la colonisation. Ce sera une série d'articles en plusieurs parties parce que ça commençait à donner un livre au début.
Ah, d'accord.
Mais voilà, c'est un petit peu cette question-là sur la spiritualité et la manière dont ça s'articule avec l'afroféminisme dans un contexte politique.
D'accord, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Laura Ntsafou, alias Mrs. Roots, et bon vent à vous.
Merci beaucoup.
Coup de projecteur.
Puisque nous avons parlé de météorologie en début d'émission, nous la terminons sur le même thème en nous remémorant une grande catastrophe qui est survenue il y aura 13 ans, jour pour jour, ce jeudi. Le 23 août 2005, en effet, la dépression atmosphérique Katrina s'est formée dans l'océan Atlantique Nord pour devenir l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis et l'un des 6 ouragans les plus forts jamais enregistrés. Environ 1836 personnes sont mortes, victimes de la tempête et des très fortes inondations. L'ouragan a atteint quelques jours après la côte sud du pays à proximité de la Nouvelle-Orléans. Son œil a atteint une largeur de 40 km et a produit des vents qui ont pu atteindre 280 km/h. La région est marquée jusqu'aujourd'hui par le passage de Katrina. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous trouverez le podcast sur dw.com/français, rubrique médiathèque. À très bientôt. Au revoir.